Le samedi 16 avril a eu lieu à Lyon une manifestation contre l'extrême droite organisée par un groupement interorganisation composé d'une variété de groupes politiques, de syndicats, d'associations, etc. Leur mot d'ordre était résumé sur leur tract. Non à l'extrême droite, pour la défense de nos droits sociaux, notre liberté, l'égalité et la solidarité.
Avec Yulène et Lucas, on a arpenté la foule pour comprendre les motivations des gens dans ce contexte politique particulièrement clivant. Pour être plus exact, on a couru de groupe en groupe, en plein cagnard, en essayant de lutter contre le vent, qui faisait tout pour saturer le micro. D'ailleurs, si vous avez croisé deux boulets avec un carton en grise de pare-vent, c'était nous.
Bref, après avoir réglé quelques problèmes techniques, que le président de Transistor s'est résumé comme personne...
Nous avons donc le président de Transistor qui a réglé cardioïde pendant 20 minutes pour ne plus avoir de batterie. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer.
On a mis les piles il y a 3 jours.
Voilà.
Ah mais le cardioïde est hyper réglé, hein.
On a décidé de dire bonjour à un peu tout le monde et de voir ce qu'on allait nous répondre. Et les gens étaient hyper chauds pour nous parler, c'était trop cool.
Bon, à la fin on était un peu fatigués, plus vraiment efficaces.
Non, j'ai pas de questions, je te dis que vous êtes exceptionnel.
Mais on a découpé tout ça en 3 épisodes. 3 épisodes au cours desquels nous allons vous faire entendre ce qu'ont à nous dire des personnes aux sensibilités politiques différentes.
Après un premier épisode dédié aux organisations politiques, disons, classiques, celles qui participent aux élections, celles qui envoient des députés à l'Assemblée et qui emploient presque des gens, aujourd'hui, on laisse la parole aux autres. Ceux qui ne viennent d'aucun parti, mais qui sont quand même là pour défendre leur vision de la gauche, ou au moins de l'antifascisme. Ceux grâce auxquels on ne peut pas unir la gauche. Ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui pourtant sont là.
Plus sérieusement, ils sont les témoins de la richesse de la gauche, et c'est cool. On peut critiquer notre incapacité à se rassembler, mais c'est grâce à eux qu'il y a un débat politique intéressant à gauche. Bien plus intéressant, en tout cas, que le débat de Dupont-Aignan, pour savoir si on va construire un bagne aux îles Kerguelen ou à Terre Adélie.
Pour tout vous raconter, dès le début de la manif, on avait repéré les drapeaux des ANA. Bon, on voulait s'échauffer un peu avant parce que, en vrai, ils font un peu peur. Non mais, franchement, pour se revendiquer anarchiste aujourd'hui, il faut quand même avoir de sacrées gonades. Alors, après 2-3 hésitations, on allait les voir et c'était vraiment incroyable.
Bonjour, vous êtes avec un drapeau de la Fédération anarchiste. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre engagement politique et de ce que ça représente d'être anarchiste actuellement ?
Ça veut dire être ultra minoritaire. Très très minoritaire, même dans le camp on peut dire progressiste, etc. On l'a vu là avec la période des élections, en tout cas moi et d'autres compagnons on a collé et milité on va dire pour l'abstention active, c'est-à-dire pas juste dire non on veut pas voter mais que ça se passe ailleurs. Et oui, on a été très mal reçus par plein de gens et dont des gens de notre camp politique au sens large quoi. Et après ce que ça veut dire militer, il n'y a pas une manière, il y en a plein, ça va d'être là dans des manifs, ça va au syndicalisme, à l'éducation populaire, à la radio, voilà, à se refuser aucun moyen, tout en restant dans son éthique et tout, mais voilà, c'est utiliser les moyens qu'on peut et qu'on veut, donc ça accepte aussi la diversité des approches en fait.
D'accord, donc en fait vous militez pour l'abstention, mais une abstention active qui passe par un discours politique diffusé par tous les médiums possibles, mais qui ne passe pas par les urnes, entre guillemets.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas réduire la politique au fait de glisser un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. En fait, non, parce que c'est une carte blanche donnée à des politicards qui sont des politiciens de métier, qui gagnent leur vie comme ça, alors qu'en fait, non, la politique, c'est être partout, tout le temps. Mais ça va de... Enfin, la politique, elle est jusque dans l'intime, jusque nos lieux de travail, lieux d'études, partout, en fait. Donc... La réduire, la politique, c'est tous les 5 ans ce petit bulletin qu'on va glisser dans l'urne. Non, en fait, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle abstention active ou rébellion abstention. C'est justement pour élargir ce champ-là, en fait. C'est-à-dire que... Alors, il y en a certains qui... Ça fait débat même au sein des anards. Hein. Je suis pas une voix qui représente tous les anards. Hein. Non, mais j'aime bien le dire. C'est quand même à le rappeler. C'est qu'on parle aussi chacun pour soi et que... Et que donc c'est vraiment des vrais débats qu'on a même entre nous, parce que certains, mais comme là, entre Macron et Le Pen, ouais, il y a du vent. Hein. et donc voilà, je sais plus ce que je disais.
Il n'y a pas une voix entre Macron et Le Pen ?
Non, c'était pas ça que je disais.
La diversité des points de vue.
Ouais, la diversité des points de vue et la diversité aussi des approches, etc. En fait, c'est aussi à chacun de faire selon sa propre éthique et selon... On n'est pas là pour prêcher une bonne parole, etc., qu'il faut suivre aveuglément. C'est juste réinterroger aussi nos pratiques, y compris celle-là qui est quand même ultra sacrée dans notre 5e République. C'est ce vote tous les 5 ans, etc., quoi.
Et donc, plus généralement, en dehors de la période électorale, c'est, qu'est-ce que ça représente et concrètement, qu'est-ce que c'est être anarchiste en France? À part être ultra minoritaire.
Mais en fait, c'est une remise en question, une remise à plat totale en fait de la société, mais dans sa globalité en fait. Ça va du moyen de fonctionner politiquement à économiquement aussi un autre fonctionnement qui soit pas dans une majorité exploitée pour le bénéfice de quelques-uns. C'est fabriqué selon les besoins, donc inverser la charge en fait, ne plus produire pour créer le besoin, mais produire en réponse aux besoins qu'il y a en fait. Donc déjà on inverse plein de choses, et puis après c'est la socialisation des moyens de production, la mise en commun des choses, etc., et chacun selon ses moyens et selon ses besoins en fait. Donc vraiment une solidarité à tous les niveaux et partout tout le temps quoi. Donc je sais pas si je réponds à toutes vos questions et si
C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent de discours anarchiste, donc c'est très agréable d'en entendre.
Eh ben cool. Y en a un, mais encore une fois, on est minoritaire. Et là, je le dis vite fait, je fais une petite promo vu que vous êtes aussi une radio. On a fait une émission sur Radio Canu qui s'appelait « Nous n'irons pas voter » et qui justement essayait d'expliquer, autant c'était une base de critique, mais aussi derrière quelles ambitions on peut avoir, en fait, en tout cas, quelle vision on a de société. Donc ça parle de mandat révocable, plein de choses comme ça. Donc si celles et ceux qui écoutent ont envie d'approfondir un petit peu le truc, peuvent essayer de trouver cette émission qui s'appelle « Nous n'irons pas voter » qui était sur Radio Canu.
D'accord. Oui, écoutez Radio Canu en général. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez parlé de mandat révocable et ça va peut-être un peu à l'encontre de l'idée anarchiste qu'on a qui serait pas de pouvoir, pas de personne élue, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Mais en fait, on se rend compte aussi que plein de gens ont plein de préjugés ou plein de des choses préfaites sur l'anarchie. Alors on peut se mettre de côté si vous voulez. Et comme ça on est au calme.
Okay. Parfait.
Et qu'en fait oui, ça interroge plein de trucs. En fait les gens pensent que l'anarchie c'est le chaos, c'est le bordel, alors qu'en fait ça c'est juste qu'on a essayé de faire croire aux gens, alors qu'anarchie c'est juste absence de pouvoir, mais ça ne veut pas dire un refus de s'organiser. Si en plus c'est, de mon point de vue c'est totalement illusion, c'est une illusion de se dire on peut fonctionner sans absolument se lier, s'organiser. Donc après il y a le mandat révocable, c'est pas une personne qui dit moi je vous promets ça et je vous promets ça. Non, c'est-à-dire que c'est les gens qui encore une fois définissent un mandat et quelqu'un qui se porte candidat ou candidate pour exécuter ce mandat. Et ce mandat lui-même doit pouvoir être contrôlé, on va dire, par les gens qui ont donné ce mandat. Alors je le donne à l'échelle dans laquelle je suis dans une orga, la Fédération anarchiste. C'est par exemple tous les mois, les mandatés viennent rendre compte de leur mandat et les fédérés peuvent demander des comptes à cette mandatée ou à ce mandaté en fait. Donc c'est un vrai... Alors c'est une petite expérience à une toute petite échelle, etc. Mais c'est justement tenter de mettre en pratique ce qu'on porte en fait comme outils, comme valeurs, etc. Donc c'est pas évident tous les jours, mais je crois que la société actuelle n'est pas évidente tous les jours selon la position sociale dans laquelle on est. Donc finalement c'est aussi... Mais je pense que c'est aussi justement... Alors là aussi, je vais pas faire de grandes envolées lyriques et tout, mais c'est un peu... Non, mais c'est parce que justement, je vais pas non plus passer pour le rêveur et le mec qui est pas du tout en phase avec le monde dans lequel il vit, mais c'est un peu une ambition qu'on a, c'est justement de défaire en fait cette sale image qu'on a collée aux anarchistes, alors que je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, il y a plein de choses qui émanent en fait des mouvements anti-autoritaires, mais vraiment, j'en suis persuadé, l'horizontalité qu'on voit quand même dans plein de mouvements qui se créent, des collectifs et tout, ça revendique une non-hiérarchie en fait. Et ça, c'est quand même très lié à l'anarchie. On peut parler de la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, elle est dans les mains de l'État, mais la mutualisation, etc., c'est lié aux caisses ouvrières, etc. Ça vient des anars, en fait. Donc c'est pas pour dire tout est à nous, c'est pas ça, parce que là encore, la propriété privée, on s'en fout. Mais c'est juste se dire, ouais, en fait, les anarchistes, c'est pas juste des kawais, même si ça existe. Il y a une diversité d'approches et de pratiques, mais c'est aussi des choses qui sont constructives, et etc. Enfin, vraiment, qui amènent des choses, je pense, vraiment importantes. À l'heure où aujourd'hui, on se rend bien compte que plein de choses partent en vrille, et que je pense que c'est aussi aux gens, individuellement et collectivement, de réinterroger ce à quoi ils croient, en fait. Est-ce qu'on pense qu'un élu ou une élue, tous les 5 ans, va résoudre nos problèmes? Est-ce que des millionnaires peuvent savoir ce qu'est la vie des gens qui ont même pas quoi bouffer en fait. Donc c'est aussi tout ça en fait. Donc voilà, je pars dans des trucs, donc voilà, mais renseignez-vous, défaites-vous des idées reçues sur l'anarchie, parce que je pense que ça aussi c'est un atout pour les puissants, c'est de dire il n'y a pas d'autre possibilité, le monde il est terminé comme ça et on va pouvoir juste faire des réajustements à la marge, alors que non, je pense fondamentalement qu'on peut réinventer les choses et les réinsuffler des nouvelles choses, et c'est absolument important selon moi.
Pour tout vous avouer, il n'y avait pas que des gens aussi adorables et intéressants. Il y avait aussi des gens avec lesquels on a eu un peu de mal à communiquer. Et pourtant, ils avaient l'air hyper déter. C'était le cas d'un homme, debout, appuyé contre un camion CRS, avec une immense pancarte contre Macron.
Bonjour, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a sur votre pancarte et nous parler de vos revendications aujourd'hui ?
Macron, il a menti aux Français. Comme il a menti aux Français... Alors il faut qu'il passe le plus rapidement possible. Et s'il est réélu, il y aura la guerre civile en France. Voilà.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous soutenez Le Pen dans ce second tour ?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre.
Et donc vous pensez faire quoi dimanche prochain ?
Dimanche prochain, il y aura de la casse dans toute la France. Voilà. Voilà ce que je tiens à dire.
Donc vous ne croyez pas dans le... Enfin, vous ne voulez pas agir par le vote ?
Ah non, non, non. La rue. Ce sera la rue. La nuit prochaine, toute la nuit du dimanche, ce sera la rue. Voilà la réponse de Macron.
On a vu des drapeaux arc-en-ciel, on était contents. On n'a pas remarqué qu'il manquait des couleurs. C'était gênant. Imaginez deux gugus qui essayent d'aborder le sujet des droits LGBT tout en douceur avec une manifestante pro-pacifiste. Bah c'était nous samedi. Non, plus sérieusement, cette militante était plutôt géniale. Et elle avait même presque pas l'air vexée qu'on n'ait pas compris ce qu'elle défendait. Et elle en avait des choses à défendre.
On vous a vu avec votre drapeau ? Pourquoi vous êtes venu ici, au nom de quoi ?
Alors moi je suis pacifiste tout en étant syndicaliste, politique, solidaire avec les migrants, enfin tout ce que Marine Le Pen n'aime pas. Par contre, je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les questions de paix, et c'est pas une pacifiste. Aujourd'hui tout le monde a peur de Poutine, mais c'est sa petite copine, et ça... Je crois qu'on a peur d'elle, elle est haineuse, elle fera un sort pas possible à ses opposants, aux migrants. Enfin, on a entendu Zemmour et elle sur ces questions-là, mais sur la paix, c'est l'armement, c'est le soutien à l'armée, aux policiers, la toute-puissance, et c'est aussi dangereux. Et puis bon, je parlais justement avec cette dame, Hitler a été élu, Hitler a fait des camps de concentration. Les Allemands qui ont voté pour lui, non, ils n'avaient pas peur. Et aujourd'hui, on est quand même en grand danger. Plus qu'il y a 5 ans, plus qu'en 2002, où on a été 15 000 à Lyon à se bouger. Alors les anciens, on a un peu mal au bide, hein.
Qu'est-ce que ça fait d'être pacifiste aujourd'hui dans le monde ?
Eh bien, je crois que c'est une denrée rare, parce que le pacifisme, ce serait, comment dire, des gens qui ne veulent pas se battre. Mais on veut se battre pour qu'il n'y ait pas de guerre. La guerre, c'est ce qu'il y a de pire. C'est des humains qui meurent, qui souffrent, c'est tout qui est détruit, et les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Bien sûr qu'il y a des peuples qui défendent leurs droits et qui doivent se battre. Il y a des révolutionnaires qui étaient contre la peine de mort et qui se sont fait guillotiner. Moi, je voudrais n'avoir jamais d'armes à porter, mais les résistants ont porté des armes. Mais c'était des pacifistes. Et on ne sait vraiment pas ce que nous réserve l'avenir. J'espère qu'on n'aura pas à se défendre avec des armes, mais tant qu'on peut, il faut... c'est les armes qu'il faut démolir. Il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires. Les pays qui ont des armes nucléaires ne l'appliquent pas et ne le signent pas, et dont la France. Et à Marine Le Pen, lui donner la possibilité d'avoir, d'appuyer sur un bouton, c'est impossible. Hein,
sur votre drapeau, alors il y a marqué P en grand en lettres blanches, mais c'est aussi un drapeau arc-en-ciel. Est-ce que...
Le drapeau du mouvement de la paix depuis des années, c'est vrai qu'il est partagé avec d'autres et absolument sans aucun... Tout le monde peut avoir envie de paix, de concorde, de mélange. Et... C'est très bien si beaucoup de gens le portent.
C'est très bien.
L'arc-en-ciel dans la Bible, c'est Noé à la fin du déluge où la vie revient. Le signe de la paix et du retour de la vie.
Qu'on vous dise quelque chose. Au début de la manif, on avait repéré des drapeaux européens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Y avait-il des extrémistes pro-Van der Leyen dans le cortège? Peut-on être indépendantiste européen? Toutes ces questions nous ont trotté en tête tout le long de la manif, jusqu'à ce qu'on puisse interviewer ces fameux militants de la Maison de l'Europe, sur un pont, avec beaucoup de vent. Désolé pour la qualité du son du micro.
On vous a vu avec vos drapeaux européens. On se demandait qu'est-ce que vous représentez.
Ouais. Bah, on est là en tant que citoyen, mais sinon on fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'Union des fédéralistes européens et qui a pour idée que la démocratie et la citoyenneté, ça s'arrête pas aux frontières nationales et que ça doit être développé autant du local au global. Et donc voilà, le drapeau européen pour nous, ça symbolise le projet européen qui est l'idée de dépasser les nationalismes. Et donc dans une manif contre l'extrême droite, contre le fascisme, bah, qui par essence est nationaliste, et ça a du sens pour nous de montrer cet embryon de démocratie internationale.
Et du coup, vous défendez quel candidat au premier tour et au deuxième tour?
On n'en défend aucun, surtout pas au premier. Par contre, au deuxième, le fascisme pour nous, c'est un danger mortel, on n'a pas de mots pour dire à quel point c'est dangereux. Enfin, on peut y voir dans l'histoire, mais dans le présent aujourd'hui, dans les autres pays où ils arrivent au pouvoir, enfin, Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, en Europe, en Hongrie, en Pologne, mais pour toutes les minorités, c'est un danger fou. Alors là, faut faire blocage à l'extrême droite, prendre aucun risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc, de fait... comme de certains partis ou mouvements l'ont dit, faut se servir du seul bulletin qu'il y a. Donc, si on a une réflexion sur la démocratie aussi, on peut condamner nos institutions, le mode du scrutin qui en fait arriver là. Et on peut comprendre le dégoût qu'il y a, une fois de plus, faire front républicain pour un candidat qui déplaît ou voire dégoûte certains. Mais il y a le fascisme en face, quoi. Mais bon, après, oui, il faudra changer d'institution, peut-être de la proportionnelle, en finir avec le présidentialisme pour arrêter d'en arriver là tous les 5 ans. Mais voilà, là, dans cet entre-deux-tours, face au fascisme.
Et après les élections, comment vous comptez agir pour défendre ce que vous défendez, tout simplement?
Et ben,
qu'est-ce que vous faites concrètement à la Maison de l'Europe, c'est ça?
Oui, donc on a plusieurs associations. On a la Maison des Européens à Lyon, qui est sur l'éducation populaire, à la citoyenneté européenne, aux enjeux européens. Et puis l'Union des fédéralistes européens, qui est une asso plus militante, qui promeut du coup cette philosophie fédéraliste, qui est une philosophie antinationaliste, anti-jacobine, pour la démocratie, l'état de droit, les droits et libertés fondamentales à tous les niveaux, du local au global. Et aujourd'hui, ça a plus que sens que jamais. Enfin, ça a depuis 70 ans plus de sens que jamais.
Ok, merci.
Oui, j'ai une question. Donc, vous êtes pour un fédéralisme européen. C'est-à-dire que concrètement, vous voudriez que l'évolution, que l'Europe évolue dans quel sens pour servir des intérêts qui vous... Enfin, pas des intérêts, mais pour être plus...
En
conformité. Merci, Yulène.
Pour nous, le fédéralisme, ça apporte une capacité d'agir face aux enjeux qui dépassent les frontières nationales. Alors, on veut pas une fédération pour une fédération. Au final, on s'en fiche du fédéralisme en soi, mais pour nous, c'est le seul moyen d'avoir les outils pour avoir une démocratie qui dépasse les frontières, pour répondre aux enjeux qui dépassent les frontières. Aujourd'hui, l'Union européenne et les organisations internationales en général, elles fonctionnent surtout à l'unanimité, c'est-à-dire que chaque VETA doit donner son accord pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait une décision politique qui soit prise. Donc, ça bloque tout. Les politiques qui sont menées, ben, elles sont à minima, parce que c'est pas de la démocratie internationale qui fonctionnerait à une majorité. Et quand une majorité, on permet d'avancer, c'est bloqué. Donc voilà, le fédéralisme, ça repose sur l'état de droit, sur une démocratie, donc un fonctionnement à la majorité. Et que tous ces enjeux qui dépassent les frontières, que ce soit évidemment le changement climatique, la criminalité organisée, les drames qui se passent avec les migrations et tous les morts qu'il y a en Méditerranée, et ben voilà, on peut pas rester au sein de nos frontières pour lutter pour ça.
Force de marché, on a eu un petit creux. Un stand proposait des menus et franchement, on n'a pas été déçus.
D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait avec votre stand ?
Bah, on a voulu proposer la restauration tout simplement et comme c'est un droit qui a été conquis, manger un snack est un droit qui a été conquis par des gens qui sont battus pour ça et que la démocratie c'est d'avoir le choix. On vous propose deux menus, le menu peste et le menu choléra. Et donc on a un menu peste dont faut pas se priver, hein, c'est sandwich au caca avec un verre de gel WC. Et sinon, on a le menu choléra, salade de clous avec verre de pipi. Et c'est que du bon produit, ça s'est produit ce matin, là. Ce matin, c'est produit à Bron, tout près d'ici. C'est vraiment, c'est bio, c'est local, faut pas se priver, c'est offert. Voilà.
D'accord, et du coup, plus généralement, ça montre votre insatisfaction par rapport au second tour, je présume.
C'est là pour questionner les gens. Est-ce que la liberté, c'est d'avoir le choix ? Est-ce que c'est d'avoir deux choix ? Est-ce que c'est d'avoir plus de choix ?
Et donc, plus concrètement, comment est-ce que vous positionnez par rapport au vote de dimanche prochain ?
Alors, on n'a aucune consigne. Nous, on est là pour donner à manger aux gens. Et on espère qu'ils se régaleront. En tout cas, j'espère qu'ils seront heureux d'avoir le choix entre deux menus, le menu peste et le menu choléra. Nous, on n'a absolument rien à dire aux gens. Ils votent pour qui ils ont envie, ils votent pas s'ils n'ont pas envie. Et moi, personnellement, j'ai brûlé ma carte électorale.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous pensez de la démocratie plus généralement ? Comment elle fonctionne ? Enfin, le fonctionnement de la démocratie actuelle ?
Eh ben, on espère que notre proposition amènera les gens à réfléchir à qu'est-ce qui est devenu la démocratie aujourd'hui. Surtout qu'on avait déjà le même menu, peste ou choléra, il y a 5 ans déjà. Et les sandwichs à la merde, au bout de 5 ans, ça commence un peu à sentir fort.
Il faut virer.
Mais revenons à nos manifestants. Au cœur de la foule samedi, quelques drapeaux palestiniens nous ont sauté aux yeux. Ni une ni deux, nous sommes allés demander à ces manifestants leurs revendications. Enfin, ni une ni deux, c'est plus une façon de parler, étant donné que la plupart étaient juste devant la fanfare, et c'est pas pratique quand on a un micro.
Est-ce que la fanfare a un mot à dire ? Merci la fanfare !
La prochaine fois que vous êtes en manif, si vous voulez qu'on de joyeux radiophiles vous parle, éloignez-vous des sources de bruit. Bref, les revendications des pro-palestiniens étaient tout à fait éclectiques.
Bonjour, du coup, on vous a vu l'ENS de Lyon. On est juste à côté. Non, là, oui. On vous a vu avec vos drapeaux palestiniens, on se demandait qu'est-ce que vous revendiquez ici dans cette manifestation ?
Alors, c'est marqué sur la pancarte. L'idée, c'était... En fait, en réfléchissant, comme Israël est un état d'extrême droite, un état d'apartheid qui est reconnu par l'ONU, hein, de toute façon, ça a été dénoncé, que tous les jours les Palestiniens sont assassinés, qu'actuellement il y a le Ramadan et qu'il y a plus de Palestiniens encore sur l'esplanade des mosquées et qu'il y a une incursion, comme il y en a très souvent, de l'armée israélienne, voire dans la mosquée Al-Aqsa où les gens vont prier, et qui mettent à la place les colons. Les colons, oui, qui sont des gens qui sont armés quand même, hein, largement, et qui font ce qu'ils veulent. Il y a une impunité totale. Donc le lien, il est sur l'extrême droite, bien sûr. Et en sachant que la France... En sachant qu'Israël est le number one mondial sur tout ce qui est sécurisation technique, hein, tout ce qu'on se paye dans les aéroports, sur l'armement de la police. Donc le lien, il est très très fort et facile à faire. Voilà.
Okay. Et comment vous vous positionnez actuellement dans cette manifestation, pardon, et plus largement par rapport à ces élections qui sont un peu problématiques ?
Alors moi, j'ai un certain âge. C'était la première fois qu'il y avait enfin, pour moi, un programme qui tenait la route sur lequel on pouvait aller. En poussant derrière, c'était sûr. Là, on est dans une impasse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Macron, j'en veux pas. Le Pen, c'est pas hors de question. Donc je crois que pour la première fois de ma vie, moi, alors je parle en mon nom personnel, hein, je ne vais m'abstenir parce que là, on va me compter. Si je vote blanc comme je faisais, comme j'ai fait la dernière fois, je ne serai pas comptabilisée. Là, je veux que l'un ou l'une, alors ben, c'est vrai que ça fait peur, hein, gagne, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, avec le minimum de voix, minimum de gens qui soient allés voter pour. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je trouve aussi que Russie-Ukraine, c'est très inquiétant, mais on a réussi à nous mettre le regard que d'un côté, c'est avec l'Ukraine, et tout ce qui se passe... Alors moi pour la Palestine, parce que je connais très très bien le sujet, ben non, on n'en parle pas du tout, hein, absolument pas. Ce qu'on dit, par exemple sur France Culture, c'est aujourd'hui des Israéliens ont été assassinés, mais on ne dit pas ce qui se passe de l'autre côté, et que ça fait 75 ans d'occupation et d'exaction, et que les gens sont arrêtés, sont emprisonnés sans qu'il y ait de jugement. Quand ils sont jugés, c'est par un tribunal militaire. Il y a des enfants de 14 ans, des jeunes de 14 ans. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre solution que, en étant enfermés, que parfois lancer des pierres et puis montrer qu'ils existent. Mais le monde entier se tait, quoi. Il n'y a aucun État qui s'occupe. Les États arabes, non, c'est une catastrophe. Et puis les autres, rien du tout. Donc on est... Avec la Covid, pour moi, alors je vais plus loin... La Covid, on était dans l'endormissement, c'est l'obéissance, gna 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 gna. Et là, on a fait pareil. Vive l'Ukraine et la Russie. Quel beau sujet avant les élections pour endormir les gens et pas voir qu'il y avait peut-être une issue. Et je pense qu'il y a un gros endormissement qui pose vraiment problème. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui vont voter, qui vont oser voter Le Pen. Je crois pas que c'est une solution, c'est bon. Dans l'espoir que les gens vont réagir, mais les gens réagiront pas de toute façon. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là. Voilà.
Ok, très bien.
J'ai une dernière question. Vous parlez d'un sentiment d'endormissement. Est-ce que vous parliez d'un sentiment d'endormissement ?
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de vous abstenir participe encore à cette image d'une France politiquement endormie ?
Non, parce que je vais réagir sur le troisième tour qui sont les élections. Législatives qui sont très importantes, vraiment très importantes, en espérant vraiment qu'on fasse un gros groupe de gauche. Moi, c'est ma décision. Après, je vais pas inciter les gens à pas le faire, mais ça suffit qu'on ne soit pas comptabilisé, quoi. Et que là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Non, franchement, non, ni l'un ni l'autre, c'est pas possible. Alors, allez mettre un petit bulletin de Mélenchon ou de je sais pas quoi, de quelqu'un d'autre qu'on aime bien. Pour s'amuser, ça sera nul de toute façon. Donc il y a un système politique à changer entièrement, quoi. La constitution, il fallait absolument la changer. Voilà.
Okay.
Non, ça ne sera pas incitateur. Ça sera pas incitateur à... C'était à l'inverse, il y a 5 ans, où c'était, donc en 2017, où c'est la jeunesse entre 18 et 35 ans a voté majeur, a fait venir Macron parce que voilà, il sortait du chapeau, qu'ils n'étaient pas sur une connaissance, une conscience politique. Là, à l'inverse, cette fois-là, c'est vraiment Mélenchon qui a été dominant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors moi, je suis un peu épuisée parce que j'aurais bien voulu que je finisse ma vie dans un peu plus d'espoir et de construction. Parce que alors, le nombre de manifs contre, c'est un peu désespérant. Mais à vous, la jeunesse, on vous soutient. On est là.
Et quelle plus belle conclusion pour vous convaincre d'écouter notre troisième épisode qui sera dédié aux jeunes dans cette manifestation. Parce que je pense que ce qui était le plus sympa samedi, c'était de parler avec des lycéens qui, malgré leur incapacité à voter, pour certains, se sont mobilisés et avaient des choses à revendiquer. Clairement, on était loin, mais alors très loin, du cliché de l'ado stupide et amorphe.